Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, faut-il revoir notre alliance avec les États-Unis?
Oui, les derniers événements en Syrie ont encore témoigné d'une grande confusion de la politique étrangère de Donald Trump, mais qui ne tient peut-être pas qu'au caractère incohérent de Donald Trump lui-même. Bon, c'est quand même lui pourtant qui, il y a un mois, annonçait le retrait des forces américaines, ce qui autorisait l'offensive militaire turque, qu'il a néanmoins condamné en adoptant des sanctions qu'il a presque aussitôt levé avant de renvoyer des troupes pour sécuriser les ressources pétrolières. Et voilà donc les soldats américains ayant quitté le nord de la Syrie il y a quelques semaines, en abandonnant leurs alliés kurdes, repasser la frontière en sens inverse depuis l'Irak pour se positionner autour de Deir ez-Zor, où se trouvent d'importants champs de pétrole. La politique étrangère américaine, de plus en plus adepte de la stratégie du transfert de fardeau, selon l'expression de notre invité. Dans quelle mesure ses alliés doivent-ils accepter ce fardeau? Bonjour Alexandra de Hoopscheffer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis, des relations transatlantiques et des affaires stratégiques. Vous êtes directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Alors, un mot sur la stratégie américaine, disons, immédiate. Retrait ou pas retrait du Moyen-Orient?
Alors effectivement, le retrait qui était censé être total, donc environ 1000 militaires américains, est très vite devenu partiel pour finalement se transformer en redéploiement. Donc il y a eu plusieurs étapes en quelques semaines finalement. Pourquoi ces revirements? Pour deux raisons. D'abord l'influence quand même qu'il faut reconnaître du Pentagone, mais aussi de quelques figures républicaines influentes comme le sénateur républicain de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, qui ont déployé cet argument du pétrole, sachant que l'obsession du président Trump pour cette question-là est bien connue. Ça fait depuis la guerre du Golfe et ensuite la guerre en Irak de 2003 qu'il dit « je ne comprends pas pourquoi les États-Unis ne prennent pas possession des ressources pétrolières, on devrait le faire, etc. »
Donc c'est eux au Pentagone qui sont allés voir Donald Trump en disant mais c'était un prétexte selon vous, parce que eux pensent que de toute façon l'État islamique n'est pas du tout à terre, comme le pense Donald Trump, et qu'il faut rester.
Bien sûr, sachant que les ressources pétrolières en Syrie, aujourd'hui, ne représentent franchement pas grand-chose. On est autour de 30 000 barils par jour, et encore, ça représente à peu près 0,03% de la production mondiale de pétrole, vous imaginez. Donc, c'est pas l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, cet argument du pétrole, ça a été effectivement un moyen de convaincre, peut-être de manière plus facile, le président Trump de laisser une force résiduelle américaine en Syrie. Ça a fonctionné. Effectivement, il y a ce mouvement des troupes américaines, environ entre 400 et 500 vers les puits de pétrole, donc dans l'Est. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la pression de certains pays voisins, notamment Israël, la Jordanie, très inquiète aussi de voir l'influence de l'Iran s'accentuer un peu plus avec un départ des troupes américaines. Et donc là, on a un renforcement aussi de cette base américaine à la frontière jordanienne syrienne, à Al-Tanf, qui permet là aussi de contrecarrer éventuellement l'Iran dans cette partie-là. Donc à la fois, je dirais, une pression qui vient du Pentagone et du Parti républicain, donc le parti de Trump, qui n'ont pas du tout accepté cette décision de leur président. Et puis également les puissances régionales qui ont alerté sur les dangers que pouvait représenter ce départ.
Donc ne pas abandonner complètement cette route de l'arc chiite. Comment on dit, il y a une expression en américain, c'est mettre de la compote dans le biberon ou quelque chose comme ça pour convaincre Donald Trump de continuer la présence américaine dans la région.
C'est ça.
Très concrètement, on sait comment ça s'est passé lorsqu'il s'agit de partir du côté, par exemple, de la base de Manbij où étaient stationnés les Américains. Ils sont organisés avec l'armée syrienne pour la leur remettre. C'était impensable il y a encore quelques temps.
Bien sûr. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé avec Manbij, c'est ce passage de relais aussi avec les Russes. Manbij, pour moi, est symboliquement extrêmement important et lourd de conséquences pour l'image des États-Unis en Syrie, dans la région, de manière plus globale en termes de crédibilité. On a assisté en direct, filmé au départ des troupes américaines, à l'arrivée des Russes, et tout ça sur fond de visite d'État de Vladimir Poutine en Arabie Saoudite. Donc le signal envoyé est quand même très mauvais pour les Américains. D'ailleurs, les troupes américaines qui quittaient Manbij se sentaient véritablement humiliées. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour ces militaires qui finalement vont être déployés ailleurs. Donc oui, Effectivement, il y a ce passage de relais, mais il ne faut pas exclure des tensions, et d'ailleurs on les voit déjà, entre les Syriens, l'armée syrienne, et également les forces turques, puisque la Turquie avait véritablement Manbij dans leur viseur.
Ce qui n'est peut-être pas si nouveau que ça sur la politique américaine de Donald Trump, qui finalement contribue à renforcer la présence de la Russie dans la région, c'est que Barack Obama, en son temps, avait en quelque sorte délégué sur le dossier syrien la partie diplomatique à la Russie.
C'est ça, on est vraiment dans une politique de sous-traitance. De sous-traitance à la fois du volet militaire et diplomatique de la gestion de crise en Syrie. Obama, effectivement, en 2013, n'a pas suivi la ligne rouge, a ouvert la porte à la Russie, enfin, la Russie qui était déjà présente en Syrie, mais a renforcé véritablement son influence, mais également l'influence de la Turquie, de l'Iran. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, c'est de voir que finalement, l'avenir politique de la Syrie n'est pas aujourd'hui réglé à Washington, mais à Sochi. Donc on a véritablement ce que j'appelle une désoccidentalisation de cette gestion de crise qui se fait finalement de manière accélérée de par la politique de Trump, qui ne souhaite plus jouer le gendarme du monde. Obama, c'était pareil. Et donc, de facto, vous créez d'autres gendarmes régionaux ou mondiaux qui, eux, vont jouer ce rôle d'orchestre diplomatique que les États-Unis ne souhaitent plus du tout jouer.
Vous parlez de désoccidentalisation, notamment dans un article qui vient de paraître dans la revue Esprit et que nous mettrons en ligne sur le site des Enjeux internationaux. Vous écrivez aussi que Donald Trump réaffirme la vision américaine d'une division des tâches selon des critères géographiques, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans l'idéal, lorsque l'on parle à des responsables militaires, diplomates américains, le fameux partage du fardeau, le partage des responsabilités devrait se faire selon des critères géographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit de manière très nette, l'obsession en matière de politique étrangère américaine, c'est la Chine. La Chine et en numéro 2, la Russie. Et c'est moins la lutte contre le terrorisme. Ça fait depuis les attentats du 11 septembre que les Américains sont dans cette lutte contre les groupes terroristes en Irak, en Afghanistan, plus récemment en Syrie, et il y a une volonté de se désengager de ce combat-là. Et donc, dans ce cadre-là, la volonté, et on le voit, ça, c'était déjà très présent dans l'approche d'Obama, mais ça s'est accéléré avec Trump, c'est de pouvoir déléguer de plus en plus la responsabilité de la gestion de crise en Afrique et dans le Levant, donc en Syrie, en Irak, à ses alliés, les alliés régionaux des Américains, mais aussi à nous, Français et Européens. Donc ça a des conséquences très très concrètes pour nous.
C'est vrai que dès le début de l'opération turque, Donald Trump a répété à maintes reprises que la Syrie est à 11 000 km des côtes américaines, manière de dire que ce qu'il s'y passe n'aura aucune conséquence sur le continent américain. Est-ce que ça doit remettre en cause, Alexandra de Hoopscheffer, et comment la manière et les conditions selon lesquelles la France et les alliés des États-Unis en général coopèrent avec eux?
Il faut qu'on redéfinisse notre alliance avec les États-Unis. La France est un peu à la pointe de cette réflexion. D'ailleurs, elle est assez isolée, mais je pense qu'elle est très juste. C'est-à-dire, vraiment, le défi, c'est comment articuler nos dépendances vis-à-vis de notre allié américain. Et on le voit d'ailleurs que notre présence militaire en Syrie dépend terriblement de la présence militaire américaine. Comment articuler ces dépendances-là avec un besoin d'autonomie et de plus d'indépendance? Et cette autonomie se décline sur le plan politique, diplomatique, mais aussi stratégico-militaire. Et donc là, je dirais que la grande question pour nous, c'est, et on le verra à la réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec la coalition internationale anti-Daesh, est-ce qu'on partage aujourd'hui toujours les mêmes objectifs, les mêmes priorités stratégiques avec les États-Unis, puisqu'avec la mort de al-Baghdadi, avec cette volonté de se concentrer sur le pétrole, mais aussi sur la Chine, la Russie au plus long terme, mais aussi sur la sécurité du Golfe Persique, que fait-on avec la lutte contre Daesh? Et donc là, ça va vraiment être l'objectif de cette discussion. La France est véritablement, dans l'initiative dans cette discussion. Et c'est véritablement cette discussion qu'on doit avoir aujourd'hui avec nos alliés américains.
La France qui réfléchit aujourd'hui à redimensionner complètement et changer de stratégie avec son opération Chamal, c'est par le biais de cette opération militaire qu'elle est impliquée dans la lutte contre Daesh dans la région. L'opération Chamal, d'après l'ancien colonel Michel Michel Goya, les Américains réalisaient 95% des frappes. Donc de toute façon, tous les autres alliés des Américains se retrouvent quand même assez seuls. Et là, le Pentagone a-t-il encore les moyens de peser sur Donald Trump pour dire « il faut rester » ?
L'objectif aujourd'hui du Pentagone et de l'administration Trump de manière plus générale, c'est de faire pression sur tous les dossiers de politique étrangère, sur nous, alliés européens, pour qu'on prenne une part plus importante de responsabilité dans cette lutte contre l'État islamique. Dans quelle mesure est-ce qu'on va être capable de répondre ? On le voit, il y a véritablement un défaut de consensus européen sur cette question-là. On voit aussi, c'est pas seulement le facteur américain, mais c'est aussi la faiblesse européenne. La France se retrouve face à un Royaume-Uni face à une Allemagne qui sont politiquement très faibles, donc stratégiquement moins impliqués sur ces dossiers-là. Et donc, véritablement, l'objectif pour la France, c'est un peu le même que les Américains, c'est aussi comment partager le fardeau avec ses partenaires européens.
Merci beaucoup, Alexandra de Hoopscheffer, d'avoir été avec nous ce matin pour nous en parler. Bonne journée.
Merci.